Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas.
La lune est là et notre ami Jean-François Nadeau est là. Salut Jean-François.
Salut Patrick.
Comment t'as vécu l'éclipse?
Ben écoute, moi je suis dans les cantons de l'Est en ce moment, en haut d'une colline où il y a, je t'assure, absolument personne, mais on a une vue absolument formidable à 360 degrés. Alors moi, c'est la première fois de ma vie que depuis ce point de vue de particulier où je suis, je vois un coucher de soleil sans soleil, mais à 360 degrés. C'est-à-dire qu'habituellement, moi, je vois le soleil se coucher à l'ouest sur les montagnes, ce qui est tout à fait raisonnable, avec une boule de feu qui se couche. Mais là, pas de soleil, mais du coucher de soleil partout, en veux-tu, en v'là, avec un retour à la normale ensuite dans une lumière assez pauvre, assez malade, un peu beige comme lumière, c'est assez particulier. Et tout autour, donc cet horizon-là qui se maintient. Moi, ce qui m'a surpris, je guettais le mouvement des oiseaux tout autour. Je me suis dit, bon, ils vont se taire et tout. Et ils ont été enterrés par le croissement des corbeaux. Alors, je sais pas, traditionnellement, dans l'histoire de l'humanité, quand il y a des quand il y a des éclipses, on voit des présages. Alors, je sais pas pour moi ce qui va arriver avec les corbeaux, Patrick.
Comment les peuples anciens vivaient ça? Je te pose la question parce que je sais que l'histoire avec un grand H et avec un petit H, c'est une de tes passions.
Oui, ben on sait en tout cas que chez les Aztèques ou les Mayas, tout ça, il n'y avait pas de petites lunettes qu'on nous vendait pour regarder les éclipses. Alors, évidemment, il y avait un rapport pendant très, très longtemps jusqu'à ce qu'on rationalise ces phénomènes astronomiques-là, jusqu'à ce qu'on les rationalise, on avait une sorte d'inquiétude, hein. Évidemment, c'était l'idée de la fin du monde qui se pointait vers nous, les mauvais présages, que le soleil allait être dévoré en Chine, par exemple, Patrick, dans l'Antiquité, pendant très, très longtemps, les moments où on a de recenser des événements de ce type-là, les archers se mettent à tirer vers le ciel parce qu'on est absolument convaincu qu'il y a des dragons qui sont en train de dévorer le soleil. Puis évidemment, ça devait marcher, les tirs d'archer, puisqu'éventuellement, le soleil revient. On a aussi l'idée des offrandes, l'or, évidemment, qui est une matérialisation métallique du métal dans l'Amérique, qui va devenir très, très importante pour les peuples d'Amérique du Sud. On a chez du temps où le Nouveau-Mexique n'est pas un État américain, mais qui fait partie de ce grand empire sud-américain. On a un peuple qui est disparu avant l'arrivée même des Européens, les Anasazi, dont on dit qu'ils ont vécu deux éclipses en moins de 2 ans, et que ce serait une des causes, pas la seule, mais une des causes qui les a invités à quitter la région, parce qu'on était absolument certain que c'était une catastrophe. De façon générale, c'est plutôt des mauvais présages, encore que, et ça, je suis pas un spécialiste de ça, mais on voit par exemple que chez des peuples comme Tahiti, on a plutôt, et ça c'est beau, je trouve, on a l'impression que la Lune, au contraire, fait l'amour au soleil et vice-versa, et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, que c'est plutôt une beauté de la nature. Mais Patrick, tu conviendras avec moi que pour un système solaire, tu sais, toute notre vie est fondée sur le soleil et sur la Lune, hein? Notre calendrier est fondé sur un rapport au soleil. Pendant longtemps, les anciens ici, t'as peut-être vu ce film extraordinaire pour la suite du monde, qui est un des chefs-d'œuvre du cinéma canadien, québécois, il aimerait pas que je dise canadien, de Pierre Perrault, dans Pour la suite du monde, où on voit des gens de l'île aux coudes. Au début des années 60, l'exploration de l'espace vient de commencer, puis t'as des gens qui, le plus sérieusement du monde ici, là, des gens qu'on peut avoir connus, ça fait pas si longtemps que ça, ça fait 50, 60 ans, qui disent « Tout fonctionne par la Lune, tout! » Et là, ça nous ramène à toute l'idée des almanachs du peuple, puis tout ça qui nous déclarait ben, « Cette année, la Lune est plus grosse. » Alors, il y a une sorte de fascination, mais tout ça, au fond, L'événement qu'on vient de vivre et dont on parle avec enthousiasme, qui déclenche des mouvements de foule, j'ai vu à Montréal, donc les métros bondés, tout ça, bon, je t'assure que même sur ma petite colline, il y avait des gens qui se sont pointés que j'avais jamais vu tout en haut de la colline pour assister à ce phénomène-là. Donc, il y a un mouvement encore qui existe, même si on a rationalisé tout ça, et même si on sait que notre système solaire existe depuis à peu près 4,5 milliards d'années. En gros, ce qu'on vient de vivre, c'est pas grand-chose dans l'histoire de l'univers.
Mais Jean-François, enlève ton chapeau d'historien, là. Pourquoi on est si fasciné que ça aujourd'hui? Pourquoi il y a des gens qui ont pris la peine de se réunir dans des endroits publics pour regarder ça en communauté avec des étrangers?
Ben, de tout temps, on sait que c'est quelque chose qui fascine l'humanité. La regarder, je sais pas, mais aujourd'hui, on vit dans une société qui est hautement fascinée par la scientificité, l'idée de la rationalité, l'idée qu'on a affaire à un phénomène qui nous ramène à ce que une quête de sens aussi, une quête de sens qui n'est pas juste spirituelle, qui est scientifique aussi. On a toujours voulu, dans toute l'histoire de l'humanité, utiliser ça. Tu te rappelleras, et là, je passe de la science à la religion, mais dans le catholicisme, là, tu te souviendras, parce que je sais que tu es un ardent catholique,
oui, oui.
Au moment de la crucifixion du Christ, on dit que le ciel s'est obscurci, donc il y aurait eu une éclipse aussi. On a voulu même associer la mort du Dieu, au fond, du représentant de Dieu, à l'éclipse. Donc, de tout temps, c'est un moment fort, et sociologiquement, c'est absolument précieux et important que de comprendre ça, puis de l'accepter, de le vivre aussi. Il y a quelque chose de formidable là-dedans, mais en même temps, il faut rationaliser tout ça. On est au fond peut-être pas si différent de ces peuples anciens dont j'ai évoqué très rapidement l'existence.
Et en terminant, il y a toujours des gens qui essaient de faire de l'argent avec tout. Il y a des compagnies à travers l'histoire qui ont tenté de faire de l'argent avec les éclipses.
Ben oui, et on le voit encore aujourd'hui en nous vendant des lunettes qui sont homologuées ou pas, mais j'ai retrouvé des petites lunettes comme ça qui ont été produites par la compagnie Lapate, une brasserie bien montréalaise, en 1963, et qui disait, bien sûr, Patrick, il n'y a rien qui éclipse la Lapate.
Oh, c'est bien dit. Merci Jean-François, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci Patrick, bye-bye.
C'était Jean-François Nadeau.
Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
Il y a de plus en plus de parents, de professeurs, plein de gens dans la société qui sont préoccupés par la place des écrans, des réseaux sociaux dans la vie des enfants. Ça peut être dans leur vie personnelle, ça peut être dans leur vie à l'école, mais chose certaine, nos enfants passent beaucoup de temps devant des écrans. J'en ai parlé à ce micro, j'en ai parlé dans la presse, c'est un sujet qui me préoccupe, notamment sur ce que ça a comme impact sur le développement du cerveau chez les enfants. Et le Parti québécois, on le sait, a annoncé par la voix de son chef Paul Saint-Pierre Plamondon qu'il était temps de s'attaquer sérieusement au temps d'écran chez les jeunes. Et hier, ça a été un peu éclipsé par l'événement qu'on a vécu avec cette éclipse de soleil. Il y a le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, qui a dit que le gouvernement n'excluait pas de légiférer sur l'utilisation du temps d'écran. Il était à Tout le monde en parle dimanche dernier pour parler justement des écrans et des jeunes. Très content d'accueillir le pédiatre Jean-François Chicoine. Jean-François, salut.
Salut Patrick.
Si le gouvernement est pour légiférer, par quoi est-ce qu'on devrait commencer à propos des écrans et des jeunes?
Il y a beaucoup d'éléments qu'il peut mettre en place. Premièrement, les éléments qui ont rapport à des actes violents, je pense au cyberharcèlement, au cyberprédateur. Alors tout ça mérite d'être hautement encadré, légiféré, puni, ou par des amendes, ou par même de l'emprisonnement, comme ça se fait en France et en Allemagne. Alors, je pense qu'il faut suivre ça d'une manière beaucoup plus importante. On sait que l'intimidation scolaire existe des vivos, là, dans une journée, mais qu'elle est vraiment extrêmement prévalente le soir, la nuit et les fins de semaine aussi, et qu'il faut intervenir là-dessus. Ça, c'est un premier élément. Je dirais qu'un deuxième élément, et ça c'est une notion bien intéressante, je trouve, c'est la notion de maturité numérique, parce qu'il y a une maturité pour chaque chose. Il y a une maturité pour conduire, pour acheter de la drogue, des cigarettes, pour aller à la guerre, whatever. Alors, c'est quoi la maturité numérique? C'est l'âge où, finalement, chez un jeune adolescent, le jugement, la morale va être à la hauteur de, je dirais, de sa personne et de son intelligence, et sera moins influencé par toutes sortes de circuits encombrés, biscornus, disent les spécialistes en sciences cognitives, par les connexions neuronales qui sont pas tout à fait achevées. Les lagages du cerveau, les neurones en trop, ils se terminent à 25 ans, mais mettons qu'entre 16 et 18 ans, ça va mieux qu'entre 12 et 14 ans. Autrement dit, la même personne peut être complètement différente dans son impulsivité, dans sa capacité de prendre des décisions. Alors, c'est quoi l'âge de la maturité numérique? En Floride, ils ont décidé que c'était 14 ans. Alors, je ne sais pas si ça vaut aussi pour leur président, mais c'est ça. En France, ils ont décidé que c'était 15 ans. C'est pas bête. Moi, je dis que c'est quelque chose entre 14 et 16 ans. Il faut toujours donner deux âges en pédiatrie, parce que ça dépend, si c'est un garçon ou une fille, ça dépend de la maturité, puis ça dépend des expériences antérieures de vie, là. Ceux qui ont vécu beaucoup de blessures, de traumatismes, de défavorisation, des fois, ont des problématiques face au jugement. Donc, c'est vraiment un système de protection. Alors, comment ça fonctionne? Je commence à travailler là-dessus. Je suis pas un whiz kid, mais il y a une façon, donc, d'inscrire les enfants sur les réseaux sociaux à partir de l'âge de 13 à 16 ans. Et entre 13 et 15 ans ou 16 ans, l'inscription devrait être faite conjointement avec l'avis d'un parent par une reconnaissance ou une carte de crédit, exactement comme un parent peut vouloir que son jeune conduise ou pas à l'âge de 16 ans. Et là, en France, ça, c'est en place. C'est en train de se mettre en place. Ça a commencé à l'été 2023. Là.
Je veux que tu me parles des écrans dans les écoles, Jean-François, parce que toute la question à la maison, mais on est allé tout au numérique ou beaucoup au numérique dans les 10-15 dernières années, des écoles qui se vantent de tout faire en ligne, de tout faire sur des iPads, les tableaux numériques interactifs, etc. Là, tu vois des pays comme la Suède qui se disent « Ouais, on regarde le développement des enfants, peut-être qu'on va revenir au crayon et au papier. » Est-ce que c'est une bonne chose, les écrans institutionnalisés dans les écoles?
Non, ça m'a toujours été, ça m'a toujours apparu, moi, comme une patente à la mode. J'ai pas trop parlé au début, parce que je trouvais que les parents sont probablement dans la même position que moi. Ils se disaient, bon, on est dépassés, on veut que nos jeunes soient modernes et tout. Donc, on a accepté beaucoup, beaucoup d'éléments. Et puis, tranquillement, on s'est aperçu que, ça faisait rien de mieux que d'écouter, que de prendre des notes à la main et tout. Puis, au contraire, ça faisait moins bien. Beaucoup pour certaines activités, notamment la mémoire. La mémoire, la mise en mémoire, la mémoire de travail, elle fonctionne mieux s'il n'y a pas d'écran devant nous, si on lit pas sur un écran aussi. Alors, clairement, et c'est à la maternelle, évidemment, à l'école primaire, évidemment, et certainement dans les premières années du secondaire, il n'y a aucun effet bénéfique à utiliser des écrans dans l'activité pédagogique. Ce qu'on savait depuis le départ, et qui a été toléré aussi, je n'ai jamais compris pourquoi, c'était l'intervention du cellulaire, ouvert ou fermé, là, dit l'INSPQ dans sa revision des données. C'est un rapport qui a été présenté tout récemment, parce qu'il distrait. En fait, le cellulaire suppose qu'on est capable de faire deux activités en même temps, ce qui est déjà difficile pour des adultes, et ce qui est impossible à faire à l'adolescence. On sait très bien que le stockage en mémoire, la concentration, l'attention va être diminuée du tiers à la moitié, même aux trois quarts, chez énormément d'enfants. Donc, le simple fait d'avoir toléré le cellulaire dans les écoles est quelque chose qui était délétère. Là, on a mis une loi, il faut l'appliquer aussi. Et quand je dis ça pour l'école, je dis ça aussi, mais là, pour des raisons sociales, pour la récréation, pour les vestiaires, pour la cafétéria, si on si on veut donner à manger, là, comme il y a des programmes alimentaires qui semblent poindre pour le midi, ben il va falloir que ces cafétérias-là soient libres de d'accès aux réseaux sociaux et que l'utilisation, en fait, des cellulaires sont interdites dans ces lieux-là.
Jean-François, merci de participer à cette conversation. Je pense qu'elle est très importante. La place des écrans, des réseaux sociaux sur le cerveau, le développement de nos jeunes, on va avoir l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir pris
merci,
le temps.
Merci, Patrick, pour soutenir tout cela. Bonne journée à
Salut.
Tout le monde.
À la prochaine. Docteur Jean-François Chicoine est pédiatre, prend souvent la parole, vous l'avez entendu, à Tout le monde en parle avant-hier là-dessus, sur les écrans. Il y a plusieurs profs qui m'ont écrit, là, j'ai souvent parlé de ça à ce micro, j'ai parlé de ça dans la presse. Il y a des profs qui ont décidé d'interdire le cellulaire, de limiter le nombre d'écrans dans leur classe, et ces profs-là voient une différence importante dans l'attention des élèves, dans leur capacité à retenir de la matière, et aussi dans, disons, l'envie de participer aux discussions en classe. Il y a des profs de cégep qui m'expliquaient, quand ils ont leur téléphone, puis tu veux qu'ils participent à des débats, à des conversations, dans une classe de sociologie, de philosophie, t'as des yeux de poisson frit devant toi. Quand tu dis pas de téléphone, mais soudainement, ils se mettent à participer. Donc, la conversation est commencée, je suis content. Je sais pas ce qui va arriver avec le projet de légiférer à Québec. Monsieur Carman a pas donné de détails, il faudra en avoir plus. Encore faut-il légiférer sur les bonnes choses.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Je veux prendre quelques minutes pour parler de ce problème grandissant, en tout cas qui est de plus en plus médiatisé. Il s'agit de l'insécurité réelle et ou perçue dans les transports en commun, particulièrement dans le métro. On sait là qu'il y a une autre annonce. Il va y avoir des rondes plus nombreuses là d'agents de sécurité dans le métro, surtout dans les stations problématiques. Et il y a un site sur Internet que j'aime beaucoup visiter, un site américain qui s'appelle Reddit. Et dans Reddit, il y a des sous-sections pour toutes sortes de sujets d'intérêt dans la vie et des sections locales. Donc, il y a une section où il y a des forums de discussion qui touchent à des enjeux québécois et aussi des enjeux montréalais. Et là, il y a quelqu'un aujourd'hui qui a lancé une discussion sur Reddit et c'est extrêmement intéressant ce que ça a généré comme commentaires. 335 commentaires. J'en ai choisi quelques-uns pour vous en parler. Parce que ça fait des années, ça va faire 2 ans que je parle de ce problème-là, l'hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Et là, l'hôpital psychiatrique s'est trouvé une aile dans le métro. Je le dis sans vouloir lancer la roche à personne, il y a de moins en moins de prise en charge pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a de moins en moins de logements abordables pour des gens qui pourraient s'accrocher à une vie « normale », entre guillemets. Là, quand t'es plus capable de payer un logement à prix abordable, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça se peut que tes vulnérabilités remontent à la surface, tu te mettes à consommer, tes problèmes de santé mentale deviennent encore plus importants. Donc, sur Reddit, qui est un site où les usagers créent le contenu, quelqu'un a écrit aujourd'hui, « J'habite à Montréal depuis plus de 15 ans. Et depuis un an ou deux, notre belle ville est devenue un trou de MARDE. » Et là, la personne commente, « Il y a des sans-abri partout. Ma femme se sent pas safe parce qu'on voit du monde partout prendre de la drogue. Métro Frontenac, il y a toujours des gens qui prennent du crack en permanence. Le métro Peel sent pas bon. La MARDE et le pipi. » Et la personne dit, « Je sais qu'il y a toujours eu des sans-abri à Montréal, mais on dirait que ça devient pire. » Et là, il y a toutes sortes de commentaires, je vous le dis. J'ai lu chacun des commentaires et c'est une sorte de cours en accéléré sur, d'abord, le diagnostic ce qui se passe présentement, des commentaires à hauteur d'hommes et de femmes qui prennent le métro et qui témoignent, et des gens qui y vont avec des remèdes possibles et aussi ce qui nous a menés là. Il y a beaucoup de gens qui relativisent d'abord, il faut le dire, qui disent, écoutez, métro Frontenac, par exemple, pour prendre celui-là, si on parle de métro problématique, dire que c'est pire qu'avant, ben c'est pas avoir vu ce qu'il y avait il y a 15 à 20 ans. Donc, Centre-Sud, ça a toujours été un quartier difficile. Et beaucoup de gens qui rappellent que, oui, à Montréal, c'est nouveau, on a ce choc, c'est difficile à encaisser, etc. Sauf que, si on compare, il y a des gens qui disent, moi, j'ai vécu à Vancouver, j'ai vécu à Toronto, ça fait longtemps qu'on vit ces problèmes-là et ils sont bien pires. Je vous dis pas que parce que c'est pire ailleurs, que c'est pas grave ou important, préoccupant ici, mais quelqu'un écrit, vous savez, les petits villages de tentes qu'on voit ici, c'est monnaie courante à Toronto et il y en a beaucoup plus et des gens soulignent aussi, c'est le cas dans beaucoup de villes nord-américaines, j'ajouterais même dans des villes européennes. Des gens qui signalent dans ce forum de discussion que ce qui a beaucoup changé, c'est pas qu'il y a des itinérants. Il y a toujours eu des itinérants. Oui, ils sont plus nombreux. C'est l'agressivité. Ça revient souvent, et vous m'écrivez souvent pour me le dire, l'agressivité des gens qui vivent en situation d'itinérance, que ce soit dans le métro ou ailleurs. Moi-même, j'ai déjà témoigné d'un épisode que j'ai vécu qui était pas très, très le fun. Mais, faut le dire, il y a des drogues de plus en plus dures qui rendent les gens de plus en plus agressifs, de plus en plus zombies, de plus en plus déconnectés de la réalité. Donc, ça, évidemment, le sentiment de sécurité en prend pour son rhume. Il y a beaucoup de gens dans ce forum de discussion qui disent, écoutez, ce qu'on voit présentement, c'est le symptôme de problèmes qui s'accumulent depuis des années. Et là, ça va être très cru, ce que cette personne-là raconte dans ce forum de discussion sur l'insécurité dans le métro. Ça sent la pisse. Parce que les gens sans abri n'ont pas accès à des toilettes, ils n'ont pas accès à des travailleurs sociaux, ils n'ont pas accès à des logements, ils sont seuls, accros, désespérés. Les files d'attente dans les banques de nourriture commencent à être fréquentées par des familles de la classe moyenne. Il y a eu des gens sans abri, rappelle cette personne, qui sont décédés dans des toilettes portables par manque d'aide. Ça aussi, il faut le dire, ce qui se passe dans le métro, il faut le répéter, c'est l'aboutissement de problèmes qui n'ont pas de lien avec le métro, ce sont des problèmes sociaux. Et autre constat dans ce forum de discussion sur Reddit, et j'en ai aussi déjà parlé. Quand je suis arrivé à Montréal en 1999, les sans-abri, c'était dans le centre-ville de Montréal. C'était rare qu'on en voyait dans des quartiers le long de la ligne orange, disons ça comme ça. Là. Le Plateau, Rosemont, Villeray, etc. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Quelqu'un écrit, le problème, ça fait bientôt 10 ans que j'habite à Montréal, plus précisément Villeray. J'adore ce quartier. Du moins, jusqu'à l'été passé, je l'ai adoré. Avant, il n'y avait jamais de gens drogués dans le métro jusque-là. Et ça me lève le cœur. Chaque fois que je rentre à l'intérieur du métro dans Villeray, ça sent le pipi. Moi qui croyais habiter un quartier paisible et familial, je vois maintenant des gens louches vendre la drogue à des personnes vulnérables directement à la vue de tout le monde. Les gens qui volent d'un commerce. Et là, la personne écrit, j'exagère peut-être, mais j'ai l'impression que Villeray n'est plus ce que c'était. Hasard, quelqu'un d'autre écrit, pas très loin. Écoutez, moi, je suis allé dans Villeray la semaine passée et c'est le paradis si je compare à mon quartier. Mon quartier, c'est tout ce qui est dans le village. Si vous êtes allé dans le village gay ces derniers temps, vous êtes allé dans le village gay de jour, de soir, de nuit. Moi, j'y suis allé un moment donné parce que l'aréna de mon fils est pas très loin. Je suis allé il y a quelques années. Une des premières fois que j'avais peur à Montréal. Donc, encore une fois, on relativise. Commentaire très éloquent sur les causes du problème. Luc Ferrandez nous en avait souvent parlé quand il chroniquait ici. Il y a une époque à Montréal, il y avait des maisons de chambre. Ces maisons de chambre, elles accueillaient des gens qui étaient peut-être à 2 pouces de tomber dans la rue. Mais là, parce que tu avais une chambre dans une maison de chambre, dans des conditions qui étaient, on se comprend, là, pas paradisiaques, tu payais 400$, 500$, tu payais un logement « abordable », entre guillemets, tu pouvais avoir un toit. Aujourd'hui, ces maisons de chambre sont disparues. Et quelqu'un écrit justement dans ce forum de discussion Reddit, tout ce qui était maison de chambre a été remplacé par des Airbnb ou des appartements rénovés, beaucoup plus chers. Ces gens-là qui étaient là, qui habitaient, qui avaient un toit, mais où vous pensez qu'ils se retrouvent? Donc ça, quand je dis que c'est pas nécessairement un problème de sécurité dans le métro accueille des gens qui ont nulle part où aller. Écoutez, on a sous-investi dans le logement social depuis 25-30 ans. On a laissé les maisons de chambre disparaître, les Airbnb retirer plein d'unités du marché locatif. Ça fait, à la fin, une situation où il y a des gens qui n'ont nulle part où aller et qui se désorganisent encore plus dans la rue et ils s'en vont dans le métro. C'est ces gens-là qu'on voit dans le métro aussi. Ça pousse à la rue le fait qu'il n'y a pas assez d'unités de logement abordable. Et quelqu'un écrit dans ce forum de discussion, ça c'est un commentaire qui revient souvent, Valérie Plante, par contre, va prendre 30 millions de dollars et elle va mettre ça dans les pistes cyclables. Et la personne ajoute, tout ça va se régler ensuite de façon ironique. Je veux juste dire quelque chose là-dessus. Les villes au Québec sont pas censées s'occuper du social. Les villes au Québec, ce sont pas les gouvernements provinciaux et fédéraux. Les villes au Québec doivent s'occuper de pistes cyclables, devraient pas avoir à investir dans des gardiens de sécurité, dans des travailleurs sociaux, dans des unités pour réchauffer sans-abri. C'est la province qui devrait faire ça. Et la province ne le fait pas et c'est décrié d'un bout à l'autre du Québec. Rappelez-vous de la sortie, la fameuse sortie de l'ex-mairesse de Gatineau qui avait dit, écoutez, je suis obligé de prendre des centaines de milliers de dollars pour m'occuper d'un problème qui devrait pas être mon problème en tant qu'élu municipal. Donc, je pense que c'est un problème complexe. Je pense que c'est un problème qui n'a pas de solution facile. Mais je veux juste dire une dernière affaire. Si on laisse le problème de l'insécurité dans le métro et ailleurs dans la ville perdurer, l'empathie des gens, la tolérance des gens va rapidement faire place à une intolérance. Ça fait des années que je le dis. Si vous voulez que quelqu'un gagne la mairie en promettant de faire le ménage, toutes les conditions sont présentement réunies.
Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
Le cœur reprisé, c'est le titre d'un texte publié par Alex Marcellet sur le site de Mitsu Magazine il y a une dizaine de jours. C'est un texte qui aborde un tabou, c'est-à-dire les hommes adultes qui sont victimes d'agressions sexuelles. On le sait, il y a des enfants et des adolescents qui sont victimes d'agressions sexuelles, de proches, d'entraîneurs, de professeurs, etc. Ça arrive aussi à des hommes d'être victimes d'agressions sexuelles. Les hommes adultes en parlent beaucoup moins. C'est un tabou. Et c'est un tabou qu'a choisi de briser Alex Marcellet dans ce texte. Il est en studio. C'est un grand honneur de l'accueillir. Alex, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Qu'est-ce qui t'a décidé à écrire ce texte-là, très intime, 30 ans après ton viol?
Honnêtement, c'est un texte que je voulais écrire depuis 20 ans. Mais j'étais pas capable. J'ai cherché plein de façons de le faire. Je voulais écrire un roman, je voulais écrire un album jeunesse coup de poing. Je cherchais les mots, j'essayais, j'ai décidé d'arrêter. Puis je l'ai fait finalement parce que j'en avais besoin de le faire. Je l'ai fait pour me libérer. J'ai pensé à moi, honnêtement, je l'ai écrit pour moi. Je l'ai fait pour me libérer. Puis j'avais la belle tribune de Mitsu Magazine. Puis je me suis dit pourquoi tout simplement le publier, puis peut-être inspirer d'autres personnes. Mais avant tout, je l'ai fait pour moi.
C'est un texte coup de poing, troublant, et sans rentrer dans tous les détails, on va s'en tenir aux détails que tu as choisi de publier. Maintenant, tu as 48 ans. Ouais. C'est arrivé il y a 30 ans. Tu étais tout jeune adulte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça se passe à l'université d'abord.
Ça se passe à l'université, l'université que je fréquentais, là, vraiment quotidiennement. Je buvais de l'eau à l'abreuvoir. Tout à coup, il y a quelqu'un qui s'est approché. Je ne l'ai jamais vu, qui a mis un couteau directement sous ma gorge puis qui me dit « Suis-moi ». Donc, il avait le couteau sous la gorge. Finalement, il l'a mis sur mon poignet. Donc, il l'a serré vraiment sur mon poignet en me tenant la main. Donc, mon poignet saignait beaucoup. Puis, il me dit « Ferme ta gueule et suis-moi ». Excusez le mot, là, mais c'est ce qu'il m'a dit. Alors, je l'ai suivi. Je savais pas trop quoi faire. Je l'ai suivi. Rendu à l'extérieur, on est allé vis-à-vis son camion. J'avais encore le poignet en sang. Il m'a lancé dans son camion. Il a enlevé tous mes vêtements. Ensuite de ça, il a remis le couteau sous ma gorge. Puis, ben, c'est là que le viol s'est passé. Pendant ce temps-là, je me disais, tais-toi, Alex. Puis, endure. Tais-toi, endure. Tu peux rien faire. J'ai pas pensé me débattre parce que j'avais le couteau en dessous de la gorge. Puis c'était endure. Désolé, je suis émotif.
Oui.
Puis une fois qu'il a terminé, ben il a ouvert la portière puis il m'a lancé, là, vraiment. Il m'a lancé sur le trottoir. Ensuite, il a lancé mes vêtements. Puis je suis parti en courant.
T'es parti en courant. Prends une gorgée, Alex. T'es parti en courant et t'expliques que là, le lendemain, d'abord, c'est l'anniversaire de ta mère.
Le plus gros coup, honnêtement, un des plus gros coups de ma vie. Je suis parti en courant, j'ai couru de Berry à Metropile, là, sans arrêt. Je sais pas comment, je faisais froid, j'avais mis mes vêtements vite, vite, là, mais il faisait froid, j'ai couru, un marathon, là. Zombie, j'ai pas arrêté aux lumières rouges, j'ai passé par des petites rues chez mon ancien copain. Je suis arrivé là, je me suis effondré, puis j'ai pas bougé, j'ai pas parlé, j'ai pas pleuré. J'étais juste à terre.
Est-ce que tu lui as dit à ton chum de l'époque ce qui venait de se passer?
Non, j'ai pas été capable de le dire. Je l'ai dit par la suite. Une fois qu'il était passé minuit, j'ai réalisé que c'était la fête de ma mère. Mais je lui ai dit par la suite. Puis il essayait de me faire parler, mais pour moi, c'était « parle-en pas, c'est pas arrivé, essaye de t'oublier ça ». J'ai parlé par la suite, puis c'est lui qui m'a forcé d'aller à l'hôpital.
Tu racontes dans ton texte sur le site de Mitsu Magazine, Alex Marsolet, que les 4 années qui ont suivi ont été extrêmement difficiles.
Ça a été les pires que l'événement que j'avais vécu, parce que j'avais mis mon masque du « Alex, tout va bien, puis je veux pas que les gens s'inquiètent de moi ». Fait que, mais personne ne savait. Ma mère en savait un petit peu, là, des petits brides de ce qui s'était passé. Mon copain, mais c'est tout. J'ai tout gardé pour moi, puis pendant 4 ans, je voulais pas déranger. J'ai tout le temps été le petit gars qui avait pas trop de problèmes, puis je voulais rester comme ça. Je voulais pas que les gens s'inquiètent par rapport à moi. Fait que ça a été très difficile d'avoir un masque de « Non, non, ça va bien. Tout va bien. » Donc, 4 années à vivre comme ça, c'est lourd. C'est un énorme poids sur les épaules.
Comment tu t'es délesté de ce poids-là?
La musique. La musique a sauvé ma vie. La musique m'a aidé beaucoup à l'adolescence, là, quand j'avais de l'intimidation au secondaire, comme la majorité des guides banlieue, là. C'est la musique. Les paroles, le monde dans lequel la musique me transportait, la folie. J'allais chercher des textes qui venaient me chercher. Puis c'est la musique qui m'a vraiment gardé en vie.
Tu as choisi de pas aller à la police.
Non.
Pourquoi?
Je voyais les graves conséquences d'en parler à la police. Puis je trouvais... Je voulais pas aller là-dedans. Encore une fois, c'est peut-être parce que dans ce temps-là, je voulais pas déranger. Puis je voulais juste effacer ça de ma mémoire. Mais j'ai juste choisi de pas le faire. J'ai choisi mon cheminement. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est pas le bon? Comme je dis dans le texte, j'ai arrêté de me poser ces questions-là. Mais non, j'ai choisi de pas le faire. C'était pas pour moi.
La question de l'agression sexuelle est taboue. Ces dernières années, dans la dernière décennie, là, il y a plusieurs personnes, surtout des femmes, qui ont pris la parole, qui ont raconté leurs histoires. Puis je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Ça a été moins le cas chez les hommes.
En effet.
J'ai rarement vu, et je me souviens pas d'avoir vu un témoignage d'homme qui publiquement dit « j'ai été violé ». Pourquoi tu penses?
C'est la culpabilité qui vient avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Je vais faire peur à mes proches. Puis je pense aussi peut-être la virilité. T'sais, un homme, c'est fort. Un homme va pas être victime. Je pense qu'il y a tout ça qui rend... Je pense qu'il y a tout ça. Il y a aussi la peur de pas déplaire, mais dans mon cas, c'est vraiment la culpabilité. Puis c'est peut-être pour ça que les autres hommes ne parlent pas non plus, mais ça nous arrive, puis faut en parler. C'est ça que je me suis rendu compte. Ça m'a pris 30 ans, mais il faut en parler.
Penses-tu que c'est répandu?
Plus qu'on pense. Je suis certain. J'ai écrit ce texte-là, ça fait peut-être... Bon, il a été publié, ça fait peut-être une semaine, mais j'ai reçu une foule de témoignages d'hommes. Donc oui, c'est répandu.
Comment tu vas maintenant?
Honnêtement, je vais très bien. C'est une libération. Quand j'ai envoyé ce texte-là, j'ai parlé à Mitsu. Elle me dit « Quand est-ce que tu veux que je le publie? » J'ai dit « Je suis prêt. » Mon père le savait pas, ma sœur le savait pas, mes amis les plus proches le savaient pas.
Les as-tu avertis avant la publication?
Oui, je les avertis avant la publication. J'ai reçu une énorme dose d'amour. Mais... j'étais prêt, je me sens libéré, je me sens bien. Ça va très bien pour vrai.
Comment ton père a réagi? Parce que spontanément, c'est le premier que tu as mentionné.
Mon père, c'est un homme, puis un homme hyper important pour moi, puis je voulais tellement pas le déplaire. Puis il m'a écrit un magnifique texte, un beau poème, comme lui seul est capable de le faire, que je vais toujours garder, puis ça finit par « De ton père qui t'aime ».
Alex, merci. Alex Marsolet, tu as publié un texte important sur le site de Mitsu Magazine. J'invite les gens à aller le lire. C'est un texte d'un grand courage aussi.
Très gentil. Puis j'invite vraiment, on peut s'en sortir. Je veux que les gens aient ça en tête. On peut s'en sortir. Il faut juste trouver qu'est-ce qui nous allume, mais on peut s'en sortir.
Merci, Alex.
Merci.
C'est un privilège de t'avoir reçu.
Merci beaucoup.
C'était Alex Marsolet.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Pourquoi tout est de plus en plus gros dans nos produits de consommation, nos maisons, nos voitures? Karel Méran, qui est président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal, ex-DG aussi de la Fondation écologiste David Suzuki pour le Québec, pose la question dans une réflexion très intéressante dans le magazine L'Actualité. Ça a été publié aujourd'hui, 11 avril. Le titre, plus gros, plus grand, plus cher, l'ère de la démesure. Je donne un exemple. Les maisons sont plus grosses, sont construites plus grosses, alors qu'il y a moins de gens qu'il y a 30, 40, 50 ans dans les maisons. Les véhicules sont de plus en plus gros. Si vous avez magasiné un véhicule automobile en location, en achat chez un concessionnaire, il y en a des petits véhicules. Ça existe. Mais disons que on fait la grosse, grosse part du stationnement chez un concessionnaire aux gros véhicules. Ça devient fascinant de voir à quel point ce qu'on consomme devient de plus en plus gros. Karel Méran est au bout du fil. Monsieur Méran, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui explique ça?
Ah mon Dieu, ben c'est essentiellement, on le sait depuis longtemps, on vit dans une société qu'on appelle une société de consommation. Et donc, il y a des entreprises qui nous créent des besoins, puis nous aussi, on répond bien à ça parce que toutes les fois qu'on a une plus grosse auto, une plus belle maison, tout est conçu pour qu'on dépense toujours plus. Là, puis on aurait pu dire, on parle de nos maisons, nos voitures, et on pourrait parler aussi de notre endettement. Là, la dette, j'ai fait des recherches, la dette des gens en 1980, c'était 66% de leur revenu annuel. Aujourd'hui, c'est 184. Donc, ça fait rouler l'économie pour l'essentiel. C'est ça la réponse.
Prenons l'exemple. On va prendre les exemples là, un par un là, parce que vous parlez d'abord des maisons. Les maisons, on a vu l'apparition depuis 20 ans là, de ce qu'on appelle des monster house. C'est arrivé avant aux États-Unis. Mais paradoxalement, on est passé en quelques décennies de 2,7 personnes par ménage à 2,2. Comment est-ce que dans nos têtes, on s'est dit on a vraiment besoin de maisons avec 8 pièces puis 6 salles de bain?
Ben, en fait, on s'est imaginé qu'on avait besoin de ça puis que ça faisait partie aussi d'un projet de vie, de la réussite dans la vie, d'être dans une maison de plus en plus grande puis d'avoir des écrans de télé de plus en plus grands puis un frigo plus gros puis deux frigos. Maintenant, on est rendu avec plusieurs voitures devant la maison aussi. Donc, c'est vraiment c'est un peu comme une spirale ou une course toujours à la consommation ou à la surconsommation. Puis la question ce qui est fascinant là-dedans, hein, c'est que j'ai documenté le nombre d'objets qu'il y a dans une maison moyenne aux États-Unis. C'est rendu 300 000 objets qu'il y a dans une maison. Et les gens ont plus de place dans leur maison. Donc, un des secteurs de l'économie qui a la plus forte croissance, c'est les sites d'entreposage. Donc, où on peut aller entreposer les choses qui ne rentrent plus chez nous. Donc, on est obligé de payer un loyer maintenant pour entreposer des objets qu'on n'est pas capable d'entreposer chez nous. Donc, il y a vraiment là-dedans un questionnement. Puis le questionnement que j'apporte, c'est, on nous dit depuis longtemps, ben, vous savez, vous pouvez continuer de consommer parce que on s'améliore, la technologie fait en sorte qu'on pollue moins pour produire des objets. Mais en réalité, comme on en consomme toujours plus, il y a plus de voitures, sont plus grosses, sont plus lourdes, il y a plus de téléphones cellulaires, il y a plus d'écrans de télé. Ben, à un moment donné, on a un problème d'échelle. On n'est pas capable de réduire notre empreinte environnementale si on grossit toujours notre consommation puis qu'on la multiplie. C'est vraiment là-dessus que je voulais mettre le spotlight, si on veut.
C'est intéressant quand vous disiez que comme les maisons sont plus grosses, les pièces sont plus grandes, ce qui était considéré comme une grosse télé, entre guillemets, dans les années 90, là, de 30 pouces, aujourd'hui, on nous vend des 84, des 90 pouces, tout est plus gros, ça nous pousse à consommer. Puis là, je veux pas tomber dans le complot, mais je vous pose la question, c'est-tu un complot?
C'est pas un complot, c'est un système qui nous pousse à consommer. J'ai regardé aussi les publicités. Il y a 50 ans, on était exposé à quelque chose comme entre 1000 et 1600 publicités par jour. Mmh. Aujourd'hui, une personne est exposée à entre 6000 et 10000 publicités par jour, et ça a augmenté là, depuis 2017. Donc, on est vraiment dans une situation où on nous c'est pas un complot, mais on nous surstimule à consommer de notre tendre enfance jusqu'au moment de notre décès. Et donc, c'est une forme de... Je compare ça un peu de l'endoctrinement qu'on voyait là dans les pays totalitaires. C'est-à-dire qu'on nous demande pas d'aimer Staline, mais on nous demande d'aimer Apple.
Non, mais écoutez, vous faites le lien. Vous dites que ça rappelle... L'omniprésence de la publicité rappelle les campagnes de propagande des régimes totalitaires. L'endoctrinement consumériste commence dès la petite enfance. Et la propagande dans un État totalitaire est centralisée, puis veut à peu près à toute fin pratique là, nous convaincre d'aimer le régime. Ça, c'est une chose. Mm-hmm. Là, il y a plein de produits qui sont annoncés. Je comprends le lien que vous faites, mais je vois pas la... Je trouve que c'est deux finalités différentes.
Totalement. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est pas un complot, c'est un système. C'est-à-dire que il n'y a pas quelqu'un derrière ça qui tire les ficelles. C'est plein d'entreprises qui veulent vendre des produits à des millions de consommateurs et des consommateurs qui prennent plaisir à acheter aussi. Mais au bout de ça, ça nous mène quand même à une situation qui est un peu étrange parce que on consomme de plus en plus. On est plus riche qu'on ne l'a jamais été, mais en même temps, on est plus endetté qu'on n'a jamais été, plus stressé et aussi de plus en plus, ben on se rend compte que le niveau de bonheur là, relatif augmente pas. Là, depuis passé un certain seuil de consommation, on consomme plus, mais ça amène plus plus de plaisir là, nécessairement. Donc c'est un questionnement, je pense, qu'on a à avoir là. Puis c'est pas l'idée, c'est pas de culpabiliser les gens, c'est juste que ces tendances-là se font tellement lentement qu'on a tendance à pas les déceler, on les voit pas. Tout d'un coup, on se retrouve, on dit, ben voyons donc, tout a grossi. Et est-ce qu'on a besoin de tout ça là? Ça fait quand même plusieurs années que Pierre-Yves McSween a écrit, en a-tu vraiment besoin? C'est un peu dans le même esprit, mais de le regarder du point de vue de l'ensemble de la société là.
Ok, je vous amène sur un autre terrain, littéralement, celui du gazon. La fondation David Suzuki, à laquelle vous avez été associé dans le passé, dit que la guerre à la pelouse doit avoir lieu. En fait, on lance une réflexion sur la présence de pelouse dans nos villes parce que ça bouffe beaucoup, ça boit beaucoup d'eau, ça bouffe beaucoup de pesticides. D'un point de vue de biodiversité, c'est pas tout à fait efficace. C'est un texte qui est dans le Devoir aujourd'hui. Écoutez, je vous pose la question. Chaque fois que je parle de ça, puis quand je regarde ma messagerie depuis que j'ai parlé de gazon en ouverture d'émission, le monsieur Mérand, les gens sont tannés de se faire écœurer dans leur quotidien. Trouvez pas que trop d'environnement va peut-être tuer l'environnementalisme?
Ah, ben écoutez, d'abord, les gens de la Fondation David Suzuki, là, ça fait déjà, moi, 4 ans que j'ai quitté, donc je veux juste dire que c'est pas moi qui décide.
Je comprends.
C'est ce qu'ils font. Ceci dit, écoutez, le gazon, on dit pas aux gens que ça va être interdit. Là. Dans le fond, ce que je pense que les gens qui souhaitent faire autre chose que du gazon, tu sais, ce qu'on leur dit, c'est que c'est positif de faire. Puis ceux qui aiment encore avoir leur gazon ont le droit d'avoir leur gazon. Là, c'est simplement que dans certaines villes, parce que on parlait de Las Vegas, entre autres, là où il y a énormément de pelouse, là-bas, il n'y a pas d'eau. Fait que c'est problématique d'avoir de la pelouse là où il n'y a pas d'eau. Puis on sait au Québec, il y a des restrictions sur l'arrosage dans des villes qui ont des sécheresses l'été. On est habitué d'avoir des restrictions comme ça. Puis c'est pas vraiment pour agacer le monde. Là, s'il n'y a plus d'eau dans une ville, il n'y a plus d'eau. Puis s'il y a trop de les pesticides rendent les enfants malades, ben on interdit les pesticides aussi. Donc, je pense que c'est raisonnable de se poser des questions de qu'est-ce qu'on doit faire avec nos pelouses ou avec nos terrains. Là.
Qu'est-ce qu'il faut faire? On met de la gravelle?
Mais bon, moi, je connais des gens qui mettent du trèfle. Je connais des gens qui mettent toutes sortes d'affaires là, parce que l'idée là-dedans, c'est de renforcer nos sols.
Ça a l'air plus propre du gazon.
Oui, c'est ce que mon grand-père disait.
Merci, M. Mérand. Bonne journée.
C'est vous. Au revoir.
C'était Karel Mérand. Il est PDG de la Fondation du Grand Montréal et aussi DG de la Fondation, ex-DG, pardon, de la Fondation David Suzuki.
Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
On se souvient de ces images d'un père qui avait rudoyé un adolescent qu'il accusait d'avoir intimidé ses deux fils il y a 2 mois. Ça se passait dans une polyvalente de Berthierville. Les images avaient fait le tour du Québec, des images qui avaient été diffusées par TVA Nouvelles. Le père avait été accusé au criminel. La cause s'est réglée plus tôt aujourd'hui au palais de justice de Joliette. Maître Valérie Michaud est la procureure de la Couronne au dossier. Elle est au bout du fil. Maître Michaud, bonjour.
Bonjour.
Donc, le père a plaidé coupable.
Oui, effectivement, ce matin au palais de justice de Joliette. Alors, il a reconnu les faits par rapport aux accusations qui étaient portées contre lui sur 3 des 4 chefs d'accusation et a reçu une sentence d'absolution conditionnelle assortie d'une probation de 2 ans avec certaines conditions, dont les intercontacts avec les deux plaignants.
Donc, il n'y aura pas de casier criminel?
À la fin du 2 ans de probation, si tout se passe bien, à ce moment-là, il n'y aura pas de casier criminel, effectivement.
Rappelez-nous de quoi il était accusé.
Alors, il y avait deux chefs. Bien, au départ, il y avait 2 chefs de voies de fait par rapport à 2 adolescents différents et 2 chefs de menace. Nous avons réglé le dossier sur les 2 chefs de voies de fait et 1 des 2 chefs de menace, puisque l'autre chef, vous savez, comme tout le monde l'a vu, la vidéo a circulé. On n'entendait pas nécessairement une deuxième menace. Alors, on a réglé sur 3 des 4 chefs à ce moment-là.
OK. Je regarde, puis je pose pas un jugement sur ce qu'il a fait. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté cette cause-là, Maître Michaud, et la question de l'intimidation peut être assez émotive, je dirais, là, chez les parents qui ont vécu ça chez leurs enfants. Mais je regarde les conséquences pour le père, et il s'en tire à bon compte.
Bien, en fait, c'est une façon de voir les choses, mais je vous dirais que c'est pas si simple que ça. On a quand même un individu qui était sans antécédent judiciaire, qui a été accusé au criminel. Les conséquences sur son emploi, il était propriétaire d'une compagnie, il a tout perdu ses contrats, donc il y a certainement des conséquences à ce niveau-là de par la médiatisation de la cause. Et vous savez, une absolution conditionnelle, ça demeure une peine au code criminel, mais il faudrait pas, ce serait une erreur de penser que le DPCP suggérait une absolution conditionnelle à chaque fois que quelqu'un déciderait de tenter de régler par lui-même une problématique à l'école de cette façon-là. Par contre, il y a un principe lorsqu'on détermine une sentence qui commande que la peine soit individualisée, qu'on tienne compte des circonstances du cas, mais aussi du profil de l'individu, et c'est ce qu'on a fait dans le dossier.
Merci d'avoir été avec nous, Maître Michaud. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci, au revoir.
C'était Maître Valérie Michaud, procureur de la Couronne au dossier de ce père qui avait été accusé d'avoir rudoyé là, quelqu'un, là, et un adolescent qui intimidait son fils. Vous avez entendu les détails, donc il n'aura pas de casier criminel s'il garde la paix pendant 2 ans.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.